Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good evening business. L'invité.
Il est 18h15 sur BFM Business. Alors le couple franco-allemand, voilà. Oui. Où va encore le couple franco-allemand ? Oui. Aujourd'hui, théoriquement, il devait y avoir un conseil des ministres franco-allemands à Fontainebleau. Il a été reporté une nouvelle fois du fait de divergences sur plusieurs dossiers. Mais enfin, Olaf Scholz est quand même venu déjeuner à l'Elysée. On va en parler de tout ça avec Alexandre Robinet Borgomano qui est avec nous. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes responsable d'Allemagne à l'Institut Montaigne. J'ai deux questions à vous poser. Nous avons beaucoup de questions avec Audrey. Est-ce que le couple franco-allemand est en plein déchirement ? Et au-delà de ça, s'il y avait des divergences tenaces, est-ce que ça serait si grave si on se rendait compte du jour au lendemain que le couple franco-allemand n'était plus forcément le couple moteur au niveau de l'Union européenne? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas démystifier un petit peu tout ça pour vous, finalement?
Je crois que vous avez tout à fait raison. Le couple franco-allemand, aujourd'hui, est abîmé. Je pense qu'il faudrait arrêter de parler de couple, tout simplement. En France, on a tendance à utiliser cette expression. Elle est absolument inexistante dans le débat public allemand, où on parle de tandem ou de moteur. Il y a incontestablement, aujourd'hui, un refroidissement du moteur franco-allemand, un refroidissement de cette relation, mais ce n'est absolument pas inédit. L'annulation du Conseil des ministres franco-allemand est un signal extrêmement négatif, mais qui témoigne des dysfonctionnements inhérents à la coopération entre les deux pays.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'équilibre initialement résidait dans, à la fois dans la force politique de la France et dans la force économique de l'Allemagne, mais que depuis, eh bien, l'Allemagne, elle s'est réunifiée, c'est devenu par ailleurs une puissance diplomatique à part entière, et que par ailleurs, la France, de son côté, elle s'est largement affaiblie, notamment sur le plan économique, avec une influence de moins en moins importante en Europe, et que donc il y a aujourd'hui un vrai déséquilibre entre les deux puissance.
Tout à fait d'accord, et on l'observe dans l'asymétrie des réactions vis-à-vis de cette annulation en France et en Allemagne. Oui. En France, ça a déclenché un torrent de commentaires et d'inquiétudes vis-à-vis de ce déchirement du couple franco-allemand, alors qu'en Allemagne, il n'y a eu que quelques articles qui ont évoqué justement cette crainte de la France d'une perte d'influence. Et donc ce nouvel équilibre européen, je pense qu'il est nécessaire de le regarder en face si on veut pouvoir justement réinitialiser la relation franco-allemande.
Mais cette brouille, alors évidemment, il y a tous les sujets dont on parlait, les deux dirigeants, il y a le plafonnement européen du gaz, il y a le plan allemand à 200 milliards, il y a le SCAF, il y a ce projet de gazoduc dont l'Allemagne voulait mais que la France ne voulait pas. Cette brouille pour vous, elle a ressurgi en grande partie à l'aune de cette crise où il y avait déjà auparavant des ferments de crise entre les deux capitales finalement.
Il y a toujours eu des tensions entre la France et l'Allemagne. La relation entre Macron et Merkel n'était pas un long fleuve tranquille. Ouais. Après l'état de grâce de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, on a eu toute une période d'un froid glacial. Souvenez-vous que les projets de souveraineté européenne développés par Emmanuel Macron étaient qualifiés par Annegret Kramp-Karrenbauer, qui à l'époque était ministre de la Défense, d'illusion. Il a fallu attendre la crise pandémique pour voir le couple franco-allemand redevenir le moteur de l'Europe à travers la mise en place de ce plan de relance de 750 milliards d'euros.
Mais la question, en fait, aujourd'hui, c'est on est en train de se demander si l'Allemagne n'est pas en train de dire, tout simplement, la solidarité, ça suffit, finalement. D'où cette fuite en avant avec ce plan à 200 milliards qu'elle a annoncé. Voilà, comme si elle avait consenti beaucoup de choses lors de la crise de la zone euro, comme si elle avait consenti beaucoup de choses à travers ce plan qui était annoncé il y a deux ans, pendant le Covid, ce grand plan de mutualisation européen. Est-ce que l'Allemagne n'est pas en train de dire, non seulement à la France, mais à l'Europe dans son intégralité, finalement, la solidarité, ça suffit? Est-ce que on peut le voir comme ça?
Alors, je crois qu'il y a deux éléments à prendre en compte pour répondre à cette question. D'une part, il est vrai que ce plan de 750 milliards d'euros, il n'a pas encore été dépensé. Il y a une attente de la part des frugaux pour voir comment on va dépenser cet argent et est-ce qu'il va réellement permettre de rétablir la compétitivité de l'économie européenne. S'il s'agit juste d'abonder des États qui ont des dettes publiques absolument colossales, ce n'est pas conforme à l'idée initiale de ce plan. Et puis, l'autre élément que vous évoquiez, c'est cette impression que l'Allemagne est aujourd'hui égoïste, que l'Europe n'est plus une priorité pour elle. Je crois que c'est complètement faux. L'Allemagne a totalement intégré que ce qui était dans l'intérêt général de l'Union européenne était également dans l'intérêt de l'Allemagne. Mais elle entre dans une zone de turbulence inédite. Après 16 années de prospérité et de stabilité, elle entre en récession. D'autant plus compliqué pour le chancelier Olaf Scholz, qui doit composer avec une coalition tripartite. Et donc, il est possible, il est observable que le chancelier n'a pas encore ce réflexe européen consistant à intégrer dans ses décisions l'impact de ses décisions vis-à-vis des autres capitales européennes.
Vous croyez qu'il pêche encore par naïveté aujourd'hui? C'est ce que vous êtes en train de nous dire entre les lignes, finalement?
Non, je pense qu'il est dans une phase d'apprentissage.
D'apprentissage, voilà.
Non, mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que l'Allemagne, en fait, elle joue la carte de la solidarité quand elle se rend compte que c'est dans son intérêt, puisque les 750 milliards, elle les a votés quand elle s'est rendue compte que l'euro était susceptible de s'écrouler et que du coup, ça aurait eu un impact dramatique sur son industrie.
On a tendance à opposer une vision romantique de l'Europe portée en France et une vision pragmatique qui serait celle de l'Allemagne. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ouais. Et si l'Union européenne fonctionne aujourd'hui, c'est parce que c'est dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de l'Allemagne.
Évidemment. Et ce plan de relance de 200 milliards, forcément, il va créer des distorsions de concurrence et il représente une menace pour les autres pays.
Si vous parlez avec des dirigeants à Berlin, ils vous expliqueront que de toute façon, un effondrement de l'industrie allemande aurait des conséquences absolument dramatiques pour toute l'économie européenne, puisqu'elle entraînerait dans son sillage toute l'économie.
Donc en fait, il faut se sauver soi-même avant de pouvoir sauver les autres.
C'est ce qu'on observe.
C'est
ce qu'on a observé dans toutes les crises précédentes. Il y a d'abord un moment de repli sur soi, un réflexe nationaliste qui ensuite est dépassé par la recherche d'une solution européenne. On l'a vu pendant la crise Covid et j'ai aucun doute le fait qu'on le verra aussi face à la crise actuelle de l'énergie.
Mais on parle aujourd'hui de coup de froid entre la France et l'Allemagne. On se demande si avec notamment ce plan à 200 milliards qu'ont adopté les Allemands, c'est pas un coup de froid généralisé entre l'Allemagne et le reste de l'Europe finalement. Est-ce que c'est pas ça ? Ce pays nous donne le sentiment, parlons-leur comme ça, vous nous direz si vous êtes d'accord, d'être relativement paumé. Effectivement, c'est vrai que beaucoup de ces repères ont volé en éclats en l'espace de 2 ans finalement, hein, c'est ça l'idée.
Je crois effectivement que l'Allemagne se trouve dans une phase de recomposition de son modèle économique ou de son modèle plus largement, puisque elle avait construit son succès sur la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes, sur une
forte
sécurité
exportation vers la Chine,
assurée par les États-Unis et une forte exportation vers la Chine. Voilà. Et il ne faut pas l'oublier, c'est aujourd'hui la priorité de l'économie allemande face à l'accroissement des tensions entre l'Occident et la Chine. L'Allemagne a conscience qu'il faut qu'elle définisse une position et cette position est encore loin d'être complètement établie.
Ça veut dire donc qu'il faut que l'Allemagne recommence à regarder beaucoup plus étroitement vers ses partenaires européens. C'est pas le signal qu'elle envoie. C'est pour ça qu'on se pose des questions aujourd'hui.
C'est pas le signal qu'elle envoie. Plus qu'une Allemagne isolée, on a l'impression que c'est le chancelier qui est isolé. Ouais. Vous avez vu les controverses aujourd'hui sur le port de Hambourg et l'entrée au capital du port de Hambourg de Costco, la firme chinoise. La plupart des ministres en charge de la politique économique ou des affaires étrangères ont mis en garde contre le risque que représentait cette entrée de Costco au capital du port de Hambourg. Or, le chancelier continue à soutenir ce projet. Il a décidé de partir à Pékin la semaine prochaine. C'est effectivement, on a l'impression qu'il agit de façon presque autistique.
Mais ce dont on ne parle pas non plus, c'est le fait que l'Allemagne est en train de se réarmer massivement avec l'objectif d'avoir la première armée conventionnelle d'Europe d'ici 2030. Et elle ne se tourne pas vers ses partenaires européens justement pour s'armer. Elle est en train de parler avec les Américains et les Israéliens. Et ça aussi, évidemment, ça crée des tensions importantes au sein de l'Union européenne.
Je crois qu'il faut nuancer ce propos. On a reproché pendant des années à l'Allemagne de ne pas investir suffisamment dans sa défense, de ne pas avoir de vision géostratégique. Désormais, elle investit et elle développe sa propre vision. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait celle que nous, on aurait voulu projeter au niveau européen. L'Allemagne et Olaf Scholz et la ministre allemande de la Défense ont rappelé à plusieurs reprises que les projets d'armement conjoints étaient prioritaires pour eux, qu'il s'agisse de l'avion de combat du futur ou du char d'assaut franco-allemand. Le bouclier antimissile, c'est effectivement l'un des principaux irritants actuellement dans la relation franco-allemande. Il est difficile à comprendre de notre point de vue. D'un autre côté, si l'Allemagne avait souhaité nous associer à ce projet, je pense qu'on aurait décliné l'offre, puisqu'il ne correspond pas à nos priorités. Reprocher à l'Allemagne de mener des projets avec d'autres partenaires me paraît aujourd'hui absolument stérile, puisqu'on peut tout à fait, au contraire, imaginer des systèmes d'interopérabilité entre les différents systèmes de défense.
Pour conclure, Alexandre, en 30 secondes, vraiment, on est au bout, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France et l'Allemagne véritablement se rabibochent, que la crise ukrainienne dégénère encore plus ? On a coutume de dire que l'Europe se construit dans la douleur, finalement, il y a comme ça qu'on avance. Qu'est-ce qui fera que les intérêts seront de nouveau convergents ?
Oui, mais là, je crois qu'on est déjà suffisamment dans la douleur. Arrive, on n'a pas besoin de drames supplémentaires. En revanche, il faut renouer un dialogue constructif et pour ça, il faut accepter de regarder nos différends en face et achever les projets qui ont déjà été initiés avant d'en initier de nouveaux.
Et donc, on attend les conclusions de ce déjeuner qui tarde à venir, puisque pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est dit, enfin, en tout cas, ce qui a été décidé.
On pense que la France et l'Allemagne se sont mis d'accord sur un agenda de souveraineté pour penser dans les domaines de l'énergie, dans le domaine de la défense et dans le domaine de l'innovation une Europe plus souveraine d'ici 2030.
On l'espère, puisque c'est évidemment essentiel. Donc, affaire à suivre.
On nous a parlé d'un dialogue constructif et amical. Voilà, c'est bien la moindre des choses. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de nous voir. Alexandre Robinet, Borgomano, responsable Allemagne à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur,
merci à vous,
sur BFM Business. 18h24, ils arrivent
c'est
à
l'heure
toute
du
vitesse.
Grand débat.
Pour le grand débat, effectivement, Nathalie Janson qui est en train de s'installer. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Professeur à Neoma Business School, Mathieu Pechberti qui est avec nous. Bonsoir,
bonsoir
Mathieu. Et Emmanuel Lechypre lui-même. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Croyez encore au couple franco-allemand ou pas du tout Emmanuel?
c'est un couple qui, je ne sais pas quoi vous dire.
Libre.
Non, c'est un couple qui, dans lequel la magie a disparu depuis longtemps. Donc maintenant, il faut expédier les affaires courantes. Bah, et quand c'est on n'est vraiment pas d'accord, comme le sujet sur l'énergie, c'est très compliqué.
On va en parler dans un instant avec vous, Mathieu, notamment. Nathalie, vous y croyez encore, vous, au couple ? Vous avez déchanté depuis longtemps aussi sur le sujet.
Le couple effectivement est important maintenant, c'est sûr qu'il a vécu voilà plusieurs histoires, voilà, c'est un vieux couple, il est peut-être dans une phase un peu usée, il faudrait qu'il sache se réinventer.
Il saura qu'il sache.
Alors avec un déjeuner aujourd'hui ouais. qui aurait peut-être permis justement de trouver des terrains d'entente.
Vous avez vu le communiqué de l'Élysée, amical et constructif.
Un beau couple.
Ça me rappelle c'était quoi le sketch de Coluche, vous vous rappelez ça, c'était voilà. Sans commentaire, c'était un petit peu ça. Un petit peu de ça. Parler du patron d'EDF qui a fait sa première apparition publique aussi, Mathieu. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit en gros là,
Oui, deux auditions au Sénat et à l'Assemblée, des auditions ouais. très sérieuses. Et il nous explique qu'il va falloir tout revoir de fond en comble, notamment sur les aspects de régulation des prix, mais également de politique industrielle d'EDF, en tout cas de pratique industrielle d'EDF. En tout cas, ces chantiers sont extrêmement nombreux. Et surtout, c'est assez vertigineux ce qui l'attend.
Eh ben, c'est le moins qu'on puisse dire. On parlera de tout ça. Et puis, on parlera de BNP Paribas, hein, sous la pression de trois ONG aujourd'hui, Audrey.
Absolument. Hein. Les banques sont sous le feu des projecteurs quand elles ne respectent pas les critères ESG.
Des ONG qui lui demandent de cesser tout de suite, immédiatement, de financer des projets d'extension des énergies fossiles. Ah. On verra tout ça dans un instant. Le grand débat, dans un instant, 18h30, 19h.
À tout de suite.
Good evening business. Le débat.
Le débat comme tous les soirs avec Audrey Tcherkov, avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, avec Emmanuel Lechypre et avec Mathieu Pechberti. Alors bien sûr, tous les regards étaient braqués vers l'Elysée avec ce déjeuner très attendu, évidemment, aujourd'hui, entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Vous allez voir la photo hein, qui a été prise sur le perron de l'Elysée. La voilà si vous nous regardez à la télévision. Bon, c'est pas la poignée de main Kohl Mitterrand, je sais pas si elle restera dans l'histoire celle-là, mais... Elle a le mérite d'exister. Est-ce que ce déjeuner a eu le mérite d'apaiser toutes les tensions ? C'est la grande question, Audrey, parce que c'est aussi ce qu'on se demande, où va le couple franco-allemand, finalement, aujourd'hui. Hein.
Vous savez, le général de Gaulle disait que les Européens sont des bâtisseurs de cathédrales. Et en fait, la fondation de la cathédrale européenne, c'était vraiment la réconciliation franco-allemande. Sauf que l'équilibre, au début, il résidait sur la force politique de la France et sur la force économique de l'Allemagne. Sauf que depuis, l'Allemagne, elle s'est réunifiée, c'est devenue une puissance diplomatique à part entière, et que la France, elle, de son côté, eh bien, elle s'est quand même largement affaiblie, avec une influence de moins en moins importante au sein de l'Union européenne. Donc, on a aujourd'hui un équilibre qui n'est plus là, et des tensions qui viennent du fait que l'Allemagne fait cavalier seul, quand même, sur beaucoup de sujets.
Est-ce qu'il y a un couple franco-allemand ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est si grave que ça pour l'Europe ? Nathalie, comment est-ce que vous regardez ça, vous, fondamentalement ?
Il est certain que c'est... Et le couple franco-allemand est quand même assez important pour cimenter, en tout cas pour donner une direction commune à l'Europe. Maintenant, il y a eu des divergences quand même depuis... Enfin, ils ont toujours vécu avec des divergences, puisque en tout cas dans la zone euro, on sait bien que l'Allemagne fait plutôt partie des groupes, des pays d'Europe du Nord, plutôt conservateurs, restrictions budgétaires.
Les frugaux, comme on dit, les orthodoxes.
Les frugaux, alors qu'on sait très bien que la France, depuis longtemps, fait plutôt partie de
les
l'autre.
Cigales.
Donc c'est vrai que la France est atypique puisqu'elle est un peu cigale, mais elle est finalement pas si maltraitée que ça. Au niveau des marchés, au niveau de sa dette, tout ce qu'on sait des particularités de la France. Et il est vrai que bien l'Allemagne, peut-être, elle est venue aussi aujourd'hui. Effectivement, on lui reproche de prendre des actions au niveau budgétaire, ce qui est un peu paradoxal puisqu'on disait tout le temps qu'elle dépensait pas assez.
Oui.
Donc bon, c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, on n'est jamais content de ce qu'elle...
Mais là, le sujet, Nathalie, c'est que ça va créer forcément des distorsions de concurrence.
Des distorsions de concurrence, je ne sais pas si on lui a vraiment demandé son avis lorsque on a fait le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Alors c'est vrai que les chiffres ne sont pas les mêmes, puisque notre bouclier tarifaire ne représente pas tout à fait les mêmes milliards que le plan annoncé. Mais voilà, je pense que oui, il y a des désaccords qui continuent. Voilà. Et est-ce que ces désaccords qui continuent seront fatales pour la suite ? Peut-être pas, mais il y a des désaccords.
au-delà de la relation franco-allemande, on est sur un pays, l'Allemagne, qui a perdu beaucoup de repères en l'espace de 2 ans, Emmanuel, finalement. Voilà, ça pourrait mettre en péril n'importe quel couple, ça, finalement, dans l'histoire. Hein.
C'est, oui, surtout quand vous vous rendez compte que l'autre membre du couple que vous avez tellement aimé, admiré, etc., n'a fait que des conneries. En fait, c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les 20 dernières années de stratégie politique et économique de l'Allemagne sont funestes. Hein. Quand vous regardez les choix énergétiques qui ont été faits, c'est-à-dire la naïveté des Allemands de considérer que l'énergie peut être un sujet économique comme les autres et qu'il n'y a pas une très forte dimension politique là-dedans, et donc de se lier les mains avec la Russie comme les dirigeants allemands l'ont fait, bah, c'était une erreur quand même assez fatale, que nous on a presque suivi finalement avec toutes les tergiversations sur notre parc nucléaire, notre indépendance énergétique, la stratégie industrielle. L'Allemagne aujourd'hui, alors je caricature un peu, mais finalement l'Allemagne aujourd'hui n'est pas présente dans tous les grands secteurs porteurs d'avenir. L'industrie automobile allemande, c'est déjà l'industrie automobile du passé.
Et donc, c'est un pays qui doit inventer son avenir,
donc
son avenir
c'est
en
un
quelque
pays
sorte. C'est ça.
Qui est confronté à ses plus grands défis depuis sans doute quasiment la Deuxième Guerre mondiale. Sur le plan économique. Parce que le reste, c'était des affaires. On repense à la fin des années 70, par exemple. Bon, ok, ils se sont fait forcer la main, notamment Helmut Schmidt, pour faire un grand plan de relance. Et puis après, ils se sont retrouvés un peu tout nus, dans les phares de la voiture. Mais c'était une récession. C'était pas vraiment une grave crise existentielle, comme aujourd'hui. Et ça, forcément, quand vous avez un des deux membres du couple qui est affaibli. Voilà. Et puis il y a des pays qui sont sortis gagnants. Aussi renforcé de ces 2 ans de Covid et de la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de petits pays qui ont pris quand même une importance plus grande.
Ce qui se passe autour de l'énergie entre la France et l'Allemagne la creuse encore un petit peu l'incompréhension entre les deux pays.
Oui, sans doute, mais pour revenir sur ce qui vient d'être dit, il y a aussi le fait, je pense, dans ces erreurs qu'on interprète comme des erreurs géopolitiques stratégiques vis-à-vis de l'énergie, on voit bien que l'Allemagne elle se tourne quand même beaucoup vers l'Est, et je ne suis pas certaine qu'effectivement les autres membres de l'Europe soutiennent en tout cas cette ouverture.
Oui, alors je suis d'accord avec Emmanuel et en même temps pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'on se rend compte en effet aujourd'hui que le modèle mercantiliste sur lequel s'est basée l'Allemagne, qu'on pensait extrêmement vertueux, finalement hyper dépendant en effet à la Russie sur la partie énergétique, à la Chine sur la partie exportation, aux États-Unis sur la partie technologie, est insoutenable. Mais de la même manière qu'on se rend compte que notre modèle en France est insoutenable aussi. Et puis si on compare, on sait qu'aujourd'hui il y a un écart de 15% de richesse entre un Français et un Allemand. Et quelque part, si nous en France on avait pu mettre ces 200 milliards d'euros sur la table, eh bien on l'aurait fait. Sauf que eux ils peuvent le faire parce que leur dette est à 70% du PIB et que la nôtre, elle est à 112% du PIB. Donc je ne sais pas si on peut vraiment les regarder de haut.
Oui, mais il y a quand même un renversement de perspective intéressant. Alors ce que je trouve en plus fascinant, c'est que les deux évoluent vraiment en symétrique, hein, noir-blanc, yin-yang. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'un va mal, l'autre va bien. Regardez, regardez par exemple, la France des années 80 est une France qui va très mal, désindustrialisée, pas compétitive, des déficits commerciaux et du chômage à gogo. L'Allemagne va très bien. L'Allemagne des années 90 décline rapidement. Il y a l'unification pendant ce temps-là. Décennie, c'est une décennie assez bonne pour l'économie française avec la désinflation compétitive. Il y a un moment où on fait plus, on fait mieux en termes de balance commerciale que l'Allemagne. On est au milieu des années 90. Et puis après, vous avez les réformes Hartz qui relancent la compétitivité de l'économie allemande.
Alors que la France se laisse aller.
Où le tandem Chirac-Jospin finalement prend tout un tas de mesures qui vont nous ruiner pour les 10 années qui suivent. Et vous voyez qu'aujourd'hui on a de nouveau à croiser les chemins. Tout ça pour dire que je suis d'accord sur le diagnostic, la France est déficit, etc. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui s'organiser, c'est des nouvelles règles du jeu économique mondial qui sont paradoxalement plus favorables
à la France,
à l'esprit français. C'est-à-dire qu'en gros, le fait qu'on veuille plus de protection, le fait qu'on veuille plus de proximité, plutôt que plus d'éloignement, comme l'éclatement des processus de production dans les années 2000. Tout ça fait que paradoxalement, on va avoir des règles du jeu plus favorables à la France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire aucune réforme, notamment en France.
On est d'accord.
Brouille franco-allemand, notamment sur les questions de l'énergie. Bon, on va écouter quelques secondes le futur patron d'EDF, Luc Rémont, qui qui a été interrogé sur le sujet aujourd'hui au Parlement. Écoutez.
Nous devons construire un nouveau consensus énergétique avec l'Allemagne. Il y a des divergences, elles sont claires. Mais c'est vraiment très important pour l'avenir du marché électrique européen que ces divergences soient exprimées, aplanies, pour que nous arrivions à créer un nouveau consensus européen sur l'électricité notamment, mais sur l'énergie plus généralement.
Mathieu, c'est quoi le problème à résoudre avec les Allemands sur ce coup-là, finalement?
Oui, s'il n'y en avait qu'un, écoutez, ça fait vraiment 10 ans que sur, en tout cas, le sujet de l'énergie, enfin, 10 ans, en fait, 20, mais on va prendre l'accident de Fukushima, qui était quand même un détonateur, où l'Allemagne, qui avait déjà enclenché sa sortie du nucléaire, arrête définitivement, sans passer un coup de fil à l'époque à Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Mais François Hollande, dans la foulée, qui est élu, lui, prévoit aussi de sortir du nucléaire, sauf qu'il ne le fait pas. Mmh. Emmanuel Macron ferme Fessenheim. N'arrête pas le nucléaire, mais oublie d'en relancer. Bref, nous, on tergiverse de notre côté. Les Allemands accélèrent énormément sur les énergies renouvelables, là où nous, pour le coup, on a clairement pris 10 ans de retard. Donc, il y a une opposition, mais on est totalement à front renversé, à la fois, nous, dans, on va dire, l'excès de ne pas avoir assez développé ce qu'on appelle un mix électrique, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis l'Allemagne qui évidemment a beaucoup développé les énergies renouvelables, c'est formidable, mais ils n'ont plus de nucléaire, ils ont encore du charbon, ils sont dépendants au gaz russe. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus antinomique. Sauf que c'est assez intéressant, parce que ce qui va se passer cet hiver, c'est qu'il y a eu un accord politique signé entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz sur... Eux, ils vont être en pénurie de gaz, on le sait. Donc nous, on va leur vendre du gaz, parce qu'il y en a plein qui arrivent par bateau des États-Unis, notamment sur nos côtes. Donc
on sait plus quoi en faire.
On va leur vendre. On sait presque.
Ah là, aujourd'hui, on sait plus quoi en faire.
Il fait chaud en octobre.
Les pauvres méthaniers qui tournent là en attendant. Ça, c'est dans les parcs. Non, mais on ne sait plus quoi en faire.
Et en échange, nous, on est en pénurie d'électricité, alors qu'on devrait être les rois du pétrole entre guillemets, parce qu'on a plein de centrales nucléaires, mais elles marchent pas. Donc on va leur acheter de l'électricité. Donc très franchement, enfin c'est si les gens arrivent à comprendre, c'est déjà pas mal, parce que c'est complètement incroyable. Donc et puis, pour finir, sur la régulation, nous qui essayons de revoir les règles du marché d'électricité en Europe, et en gros, ce que le gouvernement français voudrait, c'est tout casser de 30, 40 et même 50, si on remonte au charbon et à l'acier dans les années 60-70, la régulation des marchés de l'énergie, revenir à quelque chose de beaucoup plus, quelque part, encadré, administré, c'est un peu exagéré. Et puis les Allemands, eux, veulent pas. Ils veulent pas plafonner les prix du gaz, ils veulent pas plafonner les prix d'électricité. Donc, très franchement, je sais pas sur quel point, finalement, on est d'accord avec eux dans le monde de l'énergie.
C'est vraiment les années 90, quand même, qui marquent la nouvelle stratégie.
Enfin, le résultat le même.
Le marché de l'énergie.
Si on n'a pas cette stratégie énergétique commune, un tant soit peu.
Oui, mais ce qu'on voit, Guillaume, c'est que, aujourd'hui, et on y est, c'est que quand vous avez perdu 20 ans ou 30 ans de sous-investissement.
Vous les rattrapez pas.
Vous ne les rattrapez pas et ça va être très dur. C'est pas comme quand faut trouver des nouvelles réglementations parce qu'on a une crise financière, que en quelques mois, il faut inventer des nouvelles règles du jeu pour des filets de protection pour sauver les banques. Ça, vous pouvez le faire en un an ou deux. Là, tous ces investissements qu'on n'a pas faits.
Si ça s'inscrit dans la durée.
Nathalie. Voilà.
Oui, c'est des investissements longs. Et effectivement, là, on voit qu'il y a une claire, je pense qu'il y a une claire différence de point de vue. C'est-à-dire que ils ne veulent pas le plafonnement des prix parce que, ils veulent que le prix serve à éventuellement faire en sorte que des innovations soient trouvées, c'est-à-dire que le problème soit résolu par des entrepreneurs ou des idées, des innovations. Voilà, ils ont une position beaucoup plus dans cet esprit-là que les Français qui veulent absolument plafonner.
Plus libéral.
Et on revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'effectivement, si le signal prix n'est pas là, eh bien, quelle innovation va se développer? Et or, aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes qui savent exactement quelle sera l'innovation de demain.
Quelle innovation à produire mieux et plus.
Mieux et plus.
Et quelle incitation à consommer moins.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Mais est-ce qu'on peut quand même espérer qu'on se mette d'accord sur le fameux découplage prix électricité?
Oula, je ne me risquerai pas.
Mathieu.
Moi non plus. Mais...
non, mais ça fait quand même un an qu'on en discute.
Non, il y a quand même. Moi, je pense qu'il y a quand même le mini coin de compromis, et effectivement, peut-être là-dessus, mais vous savez, sur ce qu'on appelle l'exemple ibérique, c'est-à-dire.
Qui était absolument opposé, commence à revenir un peu dessus quand même.
En partie, non mais vous ne changerez pas l'idéologie en tout cas la vision du monde de l'Allemagne. Enfin, on parle d'énergie, non mais même sur les autres sujets à la fois.
En deux ans, il y a quelques certitudes qui ont été ébranlées côté allemand quand même, quoi.
Non, mais il y a peut-être, il y a sûrement une fenêtre, hein, et c'est ce qu'Emmanuel Macron joue d'ailleurs, parce que de toute façon, il a pas le choix. Hein, le trou de souris est vraiment très très petit. De l'exception ibérique, c'est, vous savez, les Espagnols et les Portugais, par définition, ont mis en place un fameux découplage effectivement des prix du gaz sur les prix d'électricité, mais uniquement pour les centrales à gaz qui fabriquent de l'électricité. Donc ils servent à fabriquer de l'électricité.
Ça revient à faire un bouclier tarifaire. Hein.
Ça m'a...
Puisque c'est quand même l'État qui paye la différence. Non mais, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même l'État qui paye la différence.
Oui, bien sûr.
C'est bien pour ça que les Allemands veulent pas.
C'est la porte d'entrée vers une nouvelle régulation. Et ça, je pense qu'on devrait y arriver, mais c'est ce que joue Emmanuel Macron. Le point quand même important qu'il faut souligner, c'est que l'Union européenne, et donc l'Allemagne en fait partie, a quand même des objectifs climatiques très importants qui se sont fixés. Ursula von der Leyen, quand même, y est très attachée. Et ça, sans la France, c'est pas possible. Quand vous faites la carte de l'Union européenne, pas celle-ci, mais des émissions de CO2, c'est le seul endroit où on est des bons élèves grâce au nucléaire. Et ça, c'est vraiment le seul levier que le gouvernement français a pour tenter de négo avec l'Allemagne.
Allez, on marque une petite pause, une petite minute, et puis on revient. BNP Paribas sous la pression de trois ONG, donc ils lui demandent de cesser au plus vite les investissements des projets d'extension des énergies fossiles. Voilà, grosse pression sur le secteur bancaire international.
On en parle tout de suite. À tout de suite.
Good evening business. Le débat.
Allez, 18h49, la deuxième partie du débat avec Audrey Tcherkov, avec Nathalie Janson, avec Emmanuel Lechypre et avec Mathieu Pechberti. Donc, pression une nouvelle fois sur le secteur financier, puisqu'on a appris aujourd'hui que BNP Paribas était dans le viseur de trois ONG. Trois ONG qui la menacent d'une action judiciaire si le groupe n'arrête pas au plus vite de financer des projets d'expansion des énergies fossiles. Une telle action judiciaire, ça serait quelque chose d'absolument inédit. Mais la menace est là, clairement, pour BNP, désormais, Audrey. Hein, c'est révélateur d'une époque.
Oui, absolument. En tout cas, c'est une vraie menace en termes d'image. C'est aussi la première fois en France et dans le monde qu'une banque commerciale est poursuivie pour son impact climatique. Et c'est vrai que le bilan exposé par ces trois ONG n'est pas brillant, puisque la BNP a été le premier financeur européen et le cinquième dans le monde des énergies fossiles sur les cinq dernières années, me semble-t-il.
C'est ça. La BNP aurait investi entre 2016 et 2021, l'équivalent de 55 milliards d'euros d'énergie fossile.
Avec une empreinte carbone qui est estimée aux alentours des 750 millions de tonnes de CO2, ce qui est plus que les émissions territoriales françaises d'après Oxfam.
Est-ce que Nathalie Janson, le secteur financier fait sa révolution assez vite, son agendamento assez rapidement dans ce domaine pour vous aujourd'hui?
Alors, on ne va pas tous à la même vitesse. De toute façon, il y a dans la volonté de réformer, quand la Banque Centrale Européenne a voulu revoir son logiciel il y a quand Christine Lagarde a accédé à la présidence, elle avait donc l'intention de mettre en œuvre des mesures pour effectivement rendre la politique de la BCE verte. Et c'est à cette occasion qu'en fait en Europe le sujet s'est accéléré, pour les banques en tout cas, puisqu'on voyait dans la ligne de mire arriver une réglementation qui existe déjà, mais à laquelle on allait incorporer une touche de vert en utilisant la réglementation déjà existante pour en fait mettre des bons et des mauvais points. Voilà. Donc ça c'est l'Europe. On peut pas dire que de l'autre côté de l'Atlantique ce soit la même du tout la même
c'est pas la même ambiance.
Pas du tout la même vision. Absolument. Donc on est à nouveau, on fait un peu cavalier seul là-dessus.
Métropole secteur financier, Mathieu, comment est-ce que vous regardez ça aujourd'hui, vous?
Écoutez, alors d'abord, c'est une mise en demeure.
C'est une mise en demeure,
il n'y a pas encore de poursuite, mais ça va peut-être pas tarder. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la stratégie des ONG, quand on voit ce qui s'est passé cette année, et puis même l'année dernière, mais surtout cette année à l'Assemblée Générale de Total Energy, un groupe qu'on connaît bien, où il y a eu plusieurs investisseurs. Alors, il y avait aussi eu des ONG qui ont notamment un petit peu chamboulé leur Assemblée Générale, mais plusieurs investisseurs qui poussaient Total à aller plus vite, donc qui allaient un peu dans le même sens que ces ONG, et puis Total avait beau jeu de dire, mais attendez, moi, mes investisseurs, je leur donne de l'argent, je leur verse des gros dividendes, mes investisseurs me suivent. Donc, évidemment, les ONG ont beau jeu d'aller voir les investisseurs, et maintenant de challenger les investisseurs, parce que de toute façon, ces révolutions-là, qui sont de vraies révolutions, au sens, en tout cas, ces vrais changements industriels, mais on, là, on parle de l'énergie, on peut parler aussi dans l'automobile, par exemple, ça ne se fait jamais sans le secteur financier. Oui. C'est par définition le secteur financier qui est le pivot de ces grands changements. Donc, en poussant les banques avec évidemment des pressions sur l'image, la réputation, et
oui, BNP
Paribas est extrêmement sensible à ça. C'est pas Goldman Sachs, hein. Okay, donc en les poussant là-dessus, évidemment, ils vont pousser les dirigeants de BNP Paribas à aller voir leurs clients, les Total et autres, en disant bon, maintenant, il va falloir faire des petits efforts parce que nous, nos investisseurs vont commencer aussi à changer. Parce que si vous remontez la chaîne, ce sont aussi les investisseurs.
Il y a un système de notation, effectivement.
Certains investisseurs des banques qui sont alors d'autres banques, mais. Donc, il y a un moment donné où c'est en cercle fermé, mais le secteur financier, lui aussi, a besoin, enfin en tout cas, beaucoup d'investisseurs pensent qu'il a besoin d'accélérer sur ces investissements verts qui sont à l'échelle mondiale, je le dis bien, à l'échelle mondiale, sont encore très faibles.
Emmanuel.
Non, mais je pense qu'on confond dangereusement vitesse et précipitation. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de dire, et ce qui est le cas, de dire... arrêter au plus vite de financer les énergies brunes, grises, appelez-les comme vous voulez.
Quelles sont les alternatives en face ?
Là, on court à la catastrophe. Oui. Là, on court à la catastrophe. Si c'est pour dire il faut encore investir davantage dans les énergies vertes, bien évidemment. Moi, ce qui m'effraie, c'est le sentiment d'urgence qu'on essaie d'imprimer à tout ça et qui va nous conduire à une véritable catastrophe. Parce que la réalité, c'est que la consommation mondiale de pétrole et le besoin du monde en pétrole va continuer à augmenter pendant encore des années et des années. Et ce pétrole, il faudra bien le produire. Donc c'est très sympathique de dire aujourd'hui, oh là là, il faut plus investir dans les compagnies pétrolières. Et oui, mais il sortira d'où, ce pétrole? Et là, si vous n'avez plus ce pétrole pour faire vivre le monde entier, concrètement, vous courez à une catastrophe sociale, oui, alors, économique et politique.
Je pense que le bémol ou l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de raisonner au niveau mondial. Ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'énergie ressemble aussi à ce qui se passe sur l'aspect, on va dire, géopolitique, c'est-à-dire un morcellement du monde, et où vous avez des Européens, à tort ou à raison, ça chacun pense ce qu'il veut, un continent électrique à l'horizon 2050, là où les Chinois les regardent avec des grasons en disant...
Sachant qu'on n'a pas la queue d'une source d'énergie pour fabriquer cette électricité.
C'est aussi ça qui se joue, c'est-à-dire derrière l'exemple de BNP Paribas, c'est aussi ça, c'est aussi une manière de dire est-ce que les banques européennes, par exemple BNP Paribas, vont être poussées à finalement davantage financer de produits énergétiques en Europe, donc il y aura aussi des projets gaziers ou des projets pétroliers, mais surtout à développer les projets d'énergie renouvelable en Europe et peut-être à moins financer. BNP Paribas fait partie des grandes banques mondiales qui financent beaucoup de projets gaziers au Moyen-Orient.
Un peu la façon dont ils vont se défendre, ou ils se défendent déjà. Ils disent, mais attendez... C'est pas la peine de nous taper dessus comme ça maintenant tout de suite. Nous, on va être là pour accompagner les acteurs pour aller donc voilà. Donc c'est une ligne de défense qu'on peut mais facile. Mais
les acteurs disent eux, nos investisseurs nous suivent.
Voilà. C'est l'idée, c'est-à-dire que eux c'est pas eux qui ont la solution énergétique, c'est-à-dire que c'est pas eux les.
Non, mais
dans le
scénario catastrophe de l'effondrement de l'Europe pris dans cette folie verte. Si vous voulez, c'est une nouvelle pièce du puzzle qui se met en place.
Oui.
Voilà. Et donc, une fois qu'on fera dans l'impasse sur la voiture électrique, qu'on a ruiné notre industrie automobile, une fois qu'on aura plus d'énergie, parce qu'on pourra plus faire rouler de toute façon les voitures, etc. Et après, voilà, il y aura plus.
On irait tous en vélo.
Faut quand même voir que la guerre en Ukraine a mis le doigt sur un sujet que tout le monde connaît, mais ce qui est sur le fait que l'Europe ne produit pas de pétrole, ne produit pas de gaz, et que le sujet de pénurie est encore une fois dans un monde où la géopolitique se renforce de plus en plus. Il faut que l'Europe aussi apprenne à produire son énergie, et on n'a que l'électricité.
Non, je trouve juste le regard de Emmanuel extrêmement cynique. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et en même temps, on est la première génération à voir les effets clairement du réchauffement climatique, et probablement la dernière faire quelque chose contre ça.
La transition énergétique, ça n'existe pas dans l'échelle. Ça ne s'est jamais produit. On n'en a jamais fait. Tout votre fantasme de vouloir substituer des énergies à d'autres, ça n'existe pas. Il faudra que vous mettiez ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que quand on a trouvé du pétrole, après, on n'a pas consommé moins de pétrole, on a trouvé du gaz, et avant, on avait trouvé du charbon,
et on a
rajouté du nucléaire, etc., etc.
On a diversifié.
Jamais la découverte de nouvelles énergies a fait baisser la consommation des énergies précédentes. Et qu'est-ce qui se passe en Norvège aujourd'hui, qui est le pays le plus électrifié du monde en matière de parc automobile ? La consommation de pétrole ne baisse pas non plus. Donc, moi, je veux bien qu'on arrête d'investir dans les puits de pétrole, etc. Mais tout ça conduira.
Non, non mais juste, d'accord, mais non, mais attendez, Guillaume.
Industrielle. Une et question. Et sociale. Et politique, du coup.
Audrey. Donc, ce que vous dites, c'est que le fait que nos dirigeants politiques prennent des accords, comme par exemple les accords de Paris, ils ne les respectent pas, c'est pas grave.
Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut massivement investir dans les énergies renouvelables, sans pour autant désinvestir dans les indépendants. C'est moi, ce que je critique, c'est ce scénario idéalisé de la substitution.
Donc, vous êtes
donc, il faut faire
donc,
ça sur plus longtemps.
Vous êtes pour le en même temps. Voilà.
Ah bah totalement.
Oui, oui, complètement.
C'est pour un... Totalement.
C'est bien d'accord. Les experts parlent non pas de transition énergétique, mais de transformation énergétique, ce qui n'est pas la même chose.
Tout à fait.
Voilà, exactement.
Plus juste.
Par du gaz.
Par du gaz, évidemment.
Que nous n'avons pas.
Voilà. C'est un autre sujet.
Bah oui.
On est
mais
au bout.
Sujet.
Mais vous reviendrez.
Non, mais on est d'accord, si on construisait une vingtaine de centrales nucléaires, on aurait
voilà. Pas. Voilà, mais ils ne sortiront pas.
On n'est pas capable.
Si on faisait remarcher.
Alors, si, mais ils ne sortiront pas de terre tout de suite, malheureusement. Bon, bah, c'est terminé. Bah, vous reviendrez de toute façon. Ce débat est sans fin, évidemment, et c'est tant mieux. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir.
Merci.
Nathalie
merci.
Janson, professeure à Neoma Business School, Emmanuel Le Chypre, Mathieu Pechberti. Merci beaucoup à tous les trois. 18h58, une petite pause.
Et oui, si vous avez raté une partie de ce débat, ben, ça se retrouve en replay, ça s'affiche sur vos écrans.
Dans un instant, le journal, et puis dans un quart d'heure, c'est le patron du groupe des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marleix, qui sera avec nous. Ils n'ont pas voté, les Républicains, la motion de censure contre le gouvernement. Mais oui, mais après, est-ce qu'on est toujours dans l'opposition constructive? C'est quoi l'opposition constructive, finalement? On lui posera
beaucoup de questions.
Sans fin des sujets ce soir. À tout de suite.
À tout de suite.
BFM Business, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov présente Good Evening Business.
Allez, 19h17 sur BFM Business, c'est une grande question du moment, des prochaines semaines, des prochains mois. Comment va se passer la vie à l'Assemblée nationale? C'est une des questions à laquelle on va essayer de répondre ce soir, Audrey, avec notre invité.
Exactement, hein. Et on en parle ce soir avec Olivier Marleix, qui est député de Eure-et-Loir et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonsoir Olivier Marleix.
Bonsoir.
Alors, vous n'avez pas voté les motions de censure qui ont été déposées par le Rassemblement national et par la NUPES. Vous le dites vous-même, hein, personne ne souhaite une dissolution. On comprend tout à fait la volonté de ne pas vouloir s'associer à la fois à l'extrême droite ou encore à la gauche radicale. Mais ceci dit, ça ne fait pas une ligne politique non plus. Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Le problème, c'est que vous êtes assez inaudible à la fois entre Renaissance, qui est le centre droit, et le Rassemblement national, qui a une image très, très, très adoucie, notamment du fait d'Éric Zemmour. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que le phénix républicain peut renaître de ses cendres?
Bien sûr, sinon, écoutez, on ne se donnerait pas tout ce mal. Aujourd'hui, le pays, il est enfermé dans un jeu qu'a voulu le président Macron, qui a consisté à un peu à fracturer le pays, à pousser la gauche dans les bras de Monsieur Mélenchon, à pousser la droite dans les bras de Madame Le Pen, pour être le seul un peu rempart contre ces extrêmes. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et l'Assemblée nationale, qui a été élue au mois de juin, c'est le résultat de cette stratégie, de cette fracturation, stratégie qui a marché, qui a permis sa réélection, mais qui aujourd'hui fracture le pays. Voilà, moi je souhaite que l'alternative que les Français auront à choisir dans 4 ans et demi maintenant, la prochaine élection présidentielle, ce ne soit pas nécessairement M. Mélenchon ou Mme Le Pen, mais qu'il puisse y avoir une alternative à droite, une alternative républicaine à droite, et c'est tout le projet des Républicains.
Alors justement, quel est le projet? Quels sont vraiment les sujets économiques que vous souhaitez porter?
On est d'abord, je crois que l'urgence, c'est la réduction de la dépense publique. Si, en fait, quand on regarde un peu le bilan de M. Macron, c'est avant Covid. Je parle pas de la crise du Covid, qui était évidemment un moment très particulier, mais c'est 500 milliards de dépenses publiques de dettes supplémentaires, un stock de dettes de 500 milliards avant Covid. C'est ce que dit la Cour des comptes. Et cette année, la loi de finances qu'on a refusé de bloquer, si on est arrivé au 49.3, c'est parce qu'on a refusé de bloquer cette loi de finances.
Pourquoi vous avez refusé?
Pourquoi on a refusé? Bien simplement parce qu'il y avait encore 57 milliards de dépenses publiques supplémentaires, une dette annuelle, un déficit de 155 milliards. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où le tiers des dépenses de l'État, le tiers de ses dépenses, 500 milliards de dépenses, le tiers est couvert par de l'emprunt. Et donc c'est une situation qui devient extrêmement dangereuse pour le pays. Les taux d'intérêt remontent. Les OAT à 10 ans dans notre pays sont aujourd'hui entre 2,7, 2,8, 2,9, se rapprochent vraiment des 3%. On a deux pays voisins qui ont commencé à goûter les délices des attaques sur leur dette souveraine. Je pense à l'Italie et je pense à la Grande-Bretagne. On a vu les conséquences en termes d'instabilité responsabilité gouvernementale.
Alors, vous pensez que la France pourrait être une cible aussi de cette
fund? Écoutez, quand on regarde la situation financière de la France, de sa dette, on est pas loin sur la liste, évidemment. On est le prochain sur la liste.
Et donc ce que vous dites,
voter
c'est que...
Voter un budget avec un déficit de 155 milliards, ça nous paraît de la folie, ça nous paraît irresponsable.
Quels sont les sujets que vous voulez porter dans les prochains mois autour de ces préoccupations?
Celui-là, d'abord, le premier sujet, c'est la question de la réduction de la dépense publique. On l'a porté dès la loi de finances rectificative. On a eu une discussion assez ouverte et qui a été plutôt... à ce moment-là, fructueuse d'ailleurs avec le gouvernement, puisque la loi pouvoir d'achat a été adoptée très très largement à l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'est montré ouvert sur la réaffectation des dépenses, mais en revanche, est resté totalement fermé sur la question de la réduction de la dépense publique. C'est-à-dire que ce gouvernement et le président de la République sont en réalité profondément des sociaux-démocrates. Et donc incapables de réduire la dépense publique.
Vous, comment est-ce que vous arrivez
comment
à
la réduire? Voilà, écoutez, il y a dans notre pays, tout le monde le sait, aujourd'hui, une espèce de suradministration. L'OCDE la chiffre à environ 80 milliards, le coût de cette suradministration, le coût de ces doublons. Le nombre de très hauts fonctionnaires dans notre pays, c'est des dizaines de milliers de personnes qui, dans l'appareil d'État, qui n'ont plus forcément grand-chose à administrer. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils font de la norme. Ils font de la norme et ils font de la police. Donc là, on a un champ immédiat de réduction de la dépense publique. Prenez le seul cas de l'hôpital. Tout le monde connaît les chiffres. La part de personnel administratif dans les hôpitaux, en Allemagne, c'est 13%. En France, c'est entre 28 et 30%. Voilà la différence. On préférait avoir tous plus de soignants quand on va à l'hôpital que de personnel administratif.
Nicolas Sarkozy disait la même chose il y a une quinzaine d'années.
Mais Nicolas Sarkozy, lui, l'a fait. Merci de me donner l'occasion de souligner, la droite au pouvoir a réduit la dépense publique. Et la seule fois depuis 1980 qu'on a réduit la dépense publique, où on a réduit le nombre de fonctionnaires, 150 000, c'est sous la droite au pouvoir, sous Nicolas Sarkozy. Effectivement, ce gouvernement a fait l'inverse. Emmanuel Macron a plutôt recréé de l'ordre de 120 000 fonctionnaires dans son premier
quinquennat. Mais alors justement, si on en revient à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ce que vous dites, Olivier Marleix, c'est qu'il ne fallait pas faire ce bouclier tarifaire à 45 milliards pour protéger les Français de la hausse des prix de l'énergie?
Mais d'ailleurs, ce bouclier tarifaire, c'est autre chose. Quand je parle des 500 milliards de dettes, etc., c'est quand même tout à fait autre chose. Les mesures de crise spécifiques, on les comprend. Sur le bouclier tarifaire, d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Vous parlez des sujets de combat des Républicains à l'Assemblée nationale. Notre premier sujet de combat ces jours-ci, c'est vraiment la question, depuis plusieurs semaines maintenant, d'ailleurs, avec un gouvernement qui est assez sourd, qui a eu un vrai retard au démarrage, c'est la question du prix de l'électricité pour nos entreprises. Je laisse de côté la question du prix du gaz. On sait qu'il y a une question du prix du gaz du fait de la guerre en Ukraine, du fait que Poutine a fermé le robinet du gaz, donc il y a une explosion des prix sur les marchés. En revanche, la question du prix d'électricité, c'est une crise que l'Europe s'est créée toute seule, avec une règle de marché européen qui est devenue folle, puisque en clair, elle est indexée de fait sur le prix du gaz, du gaz produisant de l'électricité. Là-dessus, le gouvernement a vraiment beaucoup trop tardé à prendre la mesure de ce sujet. Et aujourd'hui, il essaye d'improviser une réponse, mais qui est très largement insuffisante. Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative en réalité que de sortir momentanément de ce marché européen du prix du gaz pour arrêter d'avoir un prix artificiel, 500, 600 euros le mégawattheure, alors qu'on produit de l'électricité en France. 70% de notre électricité est nucléaire et elle coûte 50 euros le mégawattheure. Donc le système, il est totalement fou. Et ce qui est une aberration, c'est de devoir emprunter ce que s'apprête à faire le gouvernement pour aller subventionner ce prix artificiel.
Absolument, c'est quand même avec des taux d'intérêt très élevés.
Et là, le gouvernement, je pense, le président a été un peu trop confiant et trop peut-être naïf à l'égard de ce que serait la position de nos partenaires européens et notamment des Allemands, que ça ne semble pas contrarier, même une litote, de nous voir sombrer dans les difficultés. Donc, de sommet européen en sommet européen, pour l'instant, on échoue et on se heurte à ce mur de la détermination allemande, qui eux vont mettre 200 milliards d'euros sur la table pour aider leurs entreprises.
Mais parce qu'ils ont une dette qui est à 70% de leur PIB, alors que la nôtre est à 112%. Si on avait pu faire pareil, on l'aurait fait.
Bien sûr, on en revient à cette question de la dette insoutenable et d'absence d'efforts depuis 10 ans en la matière.
Mais c'est pour ça qu'on vous demandait aussi comment vous entendez travailler, si tant est que ce soit possible, avec la avec la majorité relative aujourd'hui. Parce que pourquoi on a le sentiment aujourd'hui encore, Monsieur Marleix, que du côté des Républicains, on n'a pas encore fait véritablement son agendamiento, qu'on n'a pas toujours aujourd'hui encore de ligne claire, lisible, un logiciel économique remis à jour finalement.
Alors, c'est quelque chose. Le logiciel est remis à jour. Je pense qu'on a même clairement peut-être été en avant du gouvernement. Quand j'entends Monsieur Macron, le virage souverainiste de Monsieur Macron, la souveraineté industrielle, la souveraineté agricole, c'est très clairement des sujets que les Républicains ont portés depuis 5 ans. Le président de la République est un mondialiste un peu béat, et nous avons porté les questions de la souveraineté industrielle qu'il a fini par redécouvrir à la question l'occasion de la crise du Covid.
Il vous a tout pris,
donc il y a des sujets sur lesquels nous on est au rendez-vous. Sur la baisse des impôts de production, on a toujours été au rendez-vous, on a été encore dans ce projet de loi.
Mais alors justement, est-ce que vous dites que c'est une bonne idée de supprimer la CVAE sur 2 années au lieu d'une?
Alors, il faut être un tout petit peu responsable. Je pense qu'aujourd'hui, la situation financière, elle est porteuse de grands risques pour la France. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, l'étaler sur 2 ans, c'est peut-être quand même plus prudent. On aimerait que le gouvernement aille plus loin sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, pour les petites entreprises, pour les PME. Puisqu'ils ne bénéficient pas en général de la disparition de la CVAE, puisque tous ne s'acquittent pas de la CVAE, au-delà d'un certain seuil. Et donc on aimerait qu'il y ait une baisse du taux d'IS de 15 à 10% pour les PME. On a porté aussi l'idée d'un IR PME, et notamment d'un IR PME innovante. Parce que à l'occasion de la suppression de l'ISF et de la transformation de l'ISF en IFI, l'ISF PME, qui permettait quand même de collecter près d'un milliard, 900 millions précisément, 900 millions d'euros pour capitaliser des PME, notamment des PME innovantes, a disparu dans la bagarre.
Alors, voilà des sujets, 38 secondes.
Des sujets qu'on a portés.
Pour pouvoir peser sur les débats, il faudrait que les Républicains se présentent en tout cas comme un parti uni. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse s'unissent?
Écoutez, à l'Assemblée nationale, en tout cas, nous avons été, quoi qu'on en ait dit certains sur tel ou tel amendement, on a été unis. Je crois que les députés ont voté à 95% sur les textes qui ont été présentés, le scrutin final sur tous les textes. On a été très largement unis depuis quelques mois.
Bon, on a compris en tout cas qu'on vous entendrait beaucoup plus dans les prochains mois, les prochaines années sur la question de la réduction de la dépense publique. Ça reste un marqueur de droite identifié. On vous attend là-dessus, évidemment. Vous serez au rendez-vous là-dessus, Olivier Marleix, véritablement.
Rendez-vous, malheureusement, comme le gouvernement avance très peu, je pense qu'on aura l'occasion de répéter le sujet.
Et de donner de la voix. Merci beaucoup.
Pour en reparler. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Olivier Marleix. Merci de passer nous voir, député d'Eure-et-Loir, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. 19h27, c'est terminé pour aujourd'hui.
C'est terminé, Guillaume. Si vous avez raté une partie de l'émission, ça s'affiche sur vos écrans. C'est à retrouver en replay.
OVH, dans un instant, fait l'actualité. Michel Pollin, invité d'Eddie Chevrillon, se retrouve demain, même heure, même endroit, pour nouvelles aventures. Très bonne soirée.
BFM Business. Good evening, business. La grande interview, Edwige Chevrillon.
Donc voilà la grande interview avec mon invité, si je retrouve ma voix, Michel Pollin, qui est donc le patron de OVH Cloud, le directeur général. Bonsoir Michel Pollin.
Bonsoir.
Désolé, avaler une poussière, voilà, qui s'est coincé.
Désolé, j'espère que ça va mieux.
Et ça va aller beaucoup mieux dans un instant. Vous êtes donc le directeur général de OVH Cloud, vous avez publié vos résultats annuels aujourd'hui.
Ce matin,
avec une croissance à 2 chiffres, retour d'une croissance à 2 chiffres. C'est le premier exercice un peu normal depuis votre incendie qui était en mars 2021. Et vous avez, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant vous êtes reparti vers une accélération très très forte de votre activité dans le cloud. On va rappeler que vous êtes le leader européen du cloud.
Oui, tout à fait. On a annoncé des résultats qui sont très forts pour cette année, avec une croissance de 18,8%. Et en plus, une profitabilité de 39% qui nous permet de continuer à investir, de continuer à recruter et de continuer à innover. Et donc, oui, nous sommes très fiers et je voudrais, si je me permets, féliciter l'ensemble des équipes d'OVH Cloud qui, un an après l'introduction en bourse, ont été capables de présenter des tels résultats en forte croissance et dans lesquels nous avons annoncé en plus que nous allons non seulement grandir, mais continuer à accélérer notre croissance.
Alors, 780 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est pour 2022, en hausse de 12,4%, avec des perspectives plus importantes pour 2023.
Tout à fait.
Vous accélérez en fait ce qu'on doit retenir du moins pour ces résultats annuels.
Exactement, c'est qu'une accélération de la croissance. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le marché du cloud continue à être un marché en forte croissance, mais on pense aujourd'hui que le positionnement d'OVH Cloud, qui est unique, qui est un positionnement dans lequel nous sommes à la fois en termes de prix, performance, très compétitif, en termes aussi de cloud durable, et également tout ce qui est autour de la protection des données, de la sécurité des données, et bien entendu de la souveraineté des données. Voyage Cloud a une proposition qui est aujourd'hui unique sur le marché.
Oui, alors unique, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une bataille du cloud souverain, du cloud français, parce qu'on a vu aujourd'hui, il y a une nouvelle offensive qui a été rendue publique, qui n'est pas, qui a fait avec la Poste, Dassault Systèmes. La question qu'on peut se poser, puisque OVH, vous existez, vous êtes le leader européen du cloud. Pourquoi, c'est deux questions un peu basiques, pardon, c'est peut-être à cause de Matou, voilà, question basique. Pourquoi les géants français s'allient avec des Google, avec des Amazon, on peut se, ou des Microsoft? Et deux, pourquoi lorsqu'on dit qu'il y a il faut un cloud 100% français, pourquoi ça, on ne s'allie pas avec vous?
Alors, je vais répondre de deux façons. La première, quand même, que c'est prouve que, je me remets 5 ans en arrière, que le cloud souverain, c'est une réalité et que tout le monde veut y aller. Je me souviens, encore quelques années, tout le monde disait ce n'est pas un problème, ça n'existe pas, c'est pas nécessaire. Donc c'est la preuve aujourd'hui qu'il y a un besoin qui est identifié par les clients pour avoir une protection des données et une confiance dans les données. La deuxième, je suis le premier avec vous, c'est des questions qu'il faut plutôt poser à ces acteurs-là. Nous, ce qu'on est très fiers, c'est d'avoir un écosystème aujourd'hui d'acteurs.
Oui, mais vous aussi, vous êtes pas, enfin, 100% français.
Ah mais personne, même pas les Américains, sont 100% américains. Tout le monde fait des alliances. Le problème, c'est la question de, comment dire, d'équilibre de ces alliances. Aujourd'hui, OVH Cloud, c'est un acteur qui est une société française dans laquelle l'essentiel de la technologie que nous proposons est une technologie française, européenne. C'est pas aujourd'hui de la distribution comme le proposent les alliances entre les hyperscalers et certains grands groupes dans lesquels on distribue les... Moi j'avais donné une analogie qui va peut-être vous paraître un peu simpliste. C'est une voiture américaine qu'on a repeint en bleu, blanc, rouge et on dit cocorico, c'est un cloud souverain. Non, OVH Cloud, c'est un cloud aujourd'hui qui, dans lequel la R&D est en France, la R&D est en Europe, la technologie est massivement et bien sûr on s'appuie sur des partenariats.
Quand on parle de souveraineté, donc c'est au niveau européen, c'est pas au niveau français.
C'est, en tout cas,
ou notre... pas, je sais pas, c'est une question. Hein.
Nous, on pense qu'effectivement, ça devrait être une démarche européenne. Aujourd'hui, OVH Cloud est une société française, donc bien sûr, ce serait mieux. Mais vous voyez, la Corée, par exemple, est un pays qui a aujourd'hui à créer dans un certain domaine une vraie souveraineté dans le domaine de du numérique.
Je ne sais pas si vous avez vu ces déclarations qu'a fait Guillaume Poppard, qui est le directeur général de l'ANSSI. C'était il y a une quinzaine de jours, lors des assises de la sécurité, c'était à Monaco. Discours d'ouverture, je le cite. Il dit que les acteurs français du numérique ne sont pas capables de développer un cloud de haut niveau.
Oui, mais sauf que vous n'avez pas fini la phrase de Guillaume qui expliquait que, comme toutes les autres nations, aucune nation aujourd'hui n'est capable, et on voit bien, la réponse qu'ont fait par exemple les Américains sur la souveraineté des données, mais sur la souveraineté par exemple de tout ce qui concerne les chipsets, et très clair, aujourd'hui, ils dépendent massivement de Taïwan, ils dépendent de la Corée, et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils veulent retrouver de l'autonomie. Donc aujourd'hui, aucune nation ne peut avoir la prétention, sur l'ensemble du domaine du numérique, avoir une autonomie totale. Ça n'existe pas.
Oui, personne. Il dit effectivement, avec du haut niveau de technologie exclusivement française.
Exactement. D'accord. Et les Américains ont le même problème, les Chinois
ont
le même problème.
En résumé, vous dites quoi, Michel Pollard? Vous dites qu'on peut avoir un cloud français? Ouais. 100% français, mais avec des alliances quand même.
Bien sûr, c'est un cloud qui est dans lequel il n'y a pas, il y a une immunité totale aux lois extraterritoriales. C'est un cloud qui est complètement respectueux de l'ensemble de la réglementation et l'ensemble du droit européen et français, qui a des spécificités, qui n'est pas le droit aujourd'hui de la donnée des Chinois ou de la donnée des Américains, et dans lequel il y a des alliances équilibrées. Et donc le risque aujourd'hui n'est pas d'avoir non seulement, comme vous le dites, 100%. Le risque aujourd'hui, c'est que 3 acteurs américains hébergent en Europe 78% des données. C'est d'avoir des monopoles de fait. Et donc nous pensons qu'il est indispensable que l'Europe, et en particulier la France, se dote d'un cloud dans lequel il y ait un équilibre. Et que cette autonomie stratégique, on le voit bien dans les sujets comme le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, quand vous êtes dépendant totalement d'un certain nombre de fournisseurs, vous n'avez plus d'autonomie stratégique. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'OVH Cloud est une des solutions qui permet de garantir le respect du droit, l'immunité au droit extraterritorial, et en plus de fournir des technologies qui garantiront une autonomie à court et à moyen terme pour l'ensemble des acteurs et au bénéfice des clients, au bénéfice de la compétition.
Quand vous voyez ce nouveau cloud de confiance, comme on dit, 100% français, vous vous dites quoi? C'est-à-dire qu'on en fait, vous faites une concurrence entre les Français alors que vous êtes un peu à la merci des gros Américains.
Écoutez, je n'ai pas tellement à commenter parce que je vous dis que je suis très heureux qu'il y ait l'initiative aujourd'hui de pouvoir innover pour pouvoir créer des sociétés qui ont vrai, contrairement aux partenariats que vous évoquez, qui sont des faux, hein, c'est de la mascarade. Là, on est sur vraiment quelque chose qui est basé sur des acteurs qui sont français et de la technologie qui est de la technologie partiellement ou totalement maîtrisée par les Français. Je ne vous cacherai pas que je pense qu'il serait préférable qu'on s'unisse que de parcelliser l'ensemble des actions.
On vous a proposé
En tout cas, pas sur ces cas-là précis. En revanche, nous, on a un écosystème aujourd'hui, on a des acteurs.
Donc la Poste n'est pas venue vous voir en disant...
Ce sujet-là spécifique, non.
D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant de voir quand même comment ça se passe. C'est un peu dommage. Donc, il n'y a pas un camp français. Le marché du cloud aujourd'hui, je crois que c'est 190 milliards d'euros à peu près. En 2026, donc c'est dans 3 ans, c'est 470 milliards d'euros. On voit que le cloud est en train de prendre d'envahir, ça tombe bien, d'envahir complètement notre univers fonctionnel. En quoi ça va changer? Mais pourquoi comment vous expliquez cette progression colossale?
Alors, la première raison, quand même, c'est les données. C'est quand même qu'il faut aujourd'hui, nous générons de plus en plus de données. La génération aujourd'hui des données est exponentielle. Et donc, il faut être capable d'exploiter, de stocker, de gérer, de trier, et puis de mettre aussi des algorithmes d'intelligence au-dessus de ces données. Et pour ça, il faut avoir des outils informatiques qui vont vous permettre d'exploiter ces données. Et le cloud est une façon extrêmement facile, bon marché, d'accéder à des niveaux d'innovation que si vous êtes uniquement dans votre petit domaine, eh bien vous aurez beaucoup de difficultés. C'est pour ça que le cloud est un outil extrêmement fort qui permet à des start-up, des scale-up, des grandes entreprises d'accéder très rapidement et de manière extrêmement flexible à des outils pour pouvoir gérer la quantité astronomique de données que nous sommes en train de générer.
Oui, donc c'est ça qui fait que ça a une explosion. D'où, si on passe à un marché qui va être de près de 500 milliards, ça explique votre confiance dans vos perspectives de vache cloud de croissance.
Ouais. Exactement, c'est pour ça qu'on a confirmé et même on a dit qu'il y a une accélération, indépendamment de ce qui est en train de se passer d'un point de vue à la fois géopolitique et économique. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des tensions, qu'il y a des risques de récession, mais nous pensons que le cloud est un des secteurs qui sera pas affecté par ces domaines-là. Au contraire, on pense que dans le domaine aujourd'hui de la pression à la fois énergétique, inflationniste, mais également de la nécessité de la digitalisation des entreprises, le cloud est une solution extrêmement flexible et paradoxalement extrêmement bon marché pour répondre à ces enjeux-là. Donc tous les acteurs aujourd'hui, tous les analystes, tous les consultants confirment que la croissance du cloud sur les prochaines années est confirmée, voire même peut-être va s'accélérer.
Est-ce que ça peut s'adresser aussi très facilement aux... je sais pas, elles doivent l'utiliser déjà, mais aux PME, aux ETI, aux PMI, aux TPE.
C'est déjà le cas,
mais ça a un coût forcément.
Je vous donne un exemple. Oui, nous, 46% de notre chiffre d'affaires est aujourd'hui vers des petites et moyennes entreprises.
D'accord.
55% plutôt vers des grandes et moyennes entreprises et très grandes entreprises. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui, et si vous prenez les start-up qui sont des petites entreprises, elles utilisent massivement parce qu'elles sont très souvent digitalisées.
Oui, c'est leur culture.
Mais aujourd'hui, on voit une migration rapide et il y a des SMI et des petites entreprises qui aujourd'hui migrent vers le cloud ou qui utilisent des outils qui eux sont dans le cloud puisque c'est ce qu'on appelle la SaaSification. Je suis désolé, c'est un tout petit peu technique qui fait que les logiciels que vous utilisez eux basculent dans le cloud.
Ouais. Et justement, vous avez mis au point, vous allez mettre au point 80 nouveaux logiciels.
Alors, on va mettre au point 80 nouveaux, ce qu'on appelle des PaaS, plateformes as a service. On en a édité 40 cette année. Donc, on a lancé 40 nouveaux services qui permettent justement à l'ensemble des équipes informatiques de développer rapidement des applications et d'aller plus vite et d'être plus souple. Aussi de les sécuriser, de les fiabiliser. Et donc, clairement, aujourd'hui, on est dans un rythme d'innovation. On sort quasiment 2 à 3 produits par mois. Vous voyez, on a aujourd'hui 70% de nos 2800 employés qui ont des profils de recherche et développement et de développement de solutions. Et nous continuons à recruter. On recrute entre 50 et 100 personnes par mois pour pouvoir continuer à nous développer. Donc on est vraiment sur un rythme d'innovation très très fort. C'est très important pour nous.
Pardonnez-moi, je vais vous rappeler un mauvais souvenir évidemment, mais c'est vrai que c'était très très marquant. C'était l'incendie que vous avez connu. Donc c'était en mars 2021. Si je vous pose la question, c'est que là, il y a eu beaucoup de données qui ont disparu de données des entreprises. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
Alors, d'abord, il n'y a eu pas si autant de données, parce que la majorité des grandes entreprises, des entreprises, ont aujourd'hui des systèmes de backup.
Oui.
Ce qu'on appelle du backup, c'est-à-dire si en fin de compte, c'est de la réplication, et donc les grandes entreprises. Nous avions à Strasbourg, par exemple, des administrations qui ont, avaient des applications hébergées chez OVH Cloud. Elles ont été toutes rétablies dans la journée.
D'accord.
Donc aujourd'hui, il y a ce sujet-là. En revanche, le choix qui a été fait par OVH Cloud, c'est de mettre un plan d'investissement de 30 millions d'euros pour aller vers ce qu'on appelle le plan d'hyper-résilience, pour pouvoir monter les standards. Donc on va au-dessus des standards aujourd'hui. Vous avez vu qu'en Corée, il y a eu un incendie d'ailleurs qui a bloqué Internet également. Donc on voit bien qu'il faut pouvoir aider l'ensemble de tous les acteurs à améliorer les standards de sécurité dans l'ensemble de toutes les infrastructures qui deviennent des infrastructures critiques. De plus, on a développé des logiciels qui permettent à nos clients de faire justement qu'ils soient capables, quand il y a des cyberattaques ou des incidents de cette nature, de pouvoir récupérer leurs données très rapidement.
Michel Poulin, est-ce qu'il y a une inflation des coûts? Parce que coût de l'énergie, il y a une inflation un peu généralisée, inflation des salaires. Tiens, vous avez augmenté les salaires chez OVH Cloud de combien?
Alors, on l'a fait pays par pays, avec un choix. En France, on va jusqu'à 6,5%. Mais on a fait le choix d'augmenter les salaires pour tous les petits salaires de manière généralisée de 4,5 pour faire en sorte qu'il y ait justement quelque chose qui soit équitable. C'est vraiment, on est une société qui essaye d'offrir un cadre de travail. On est très fiers.
Mais comment 6,5
c'est 4,5 qui sont distribués à tous les salaires. Et ensuite, il y a pour des salaires qui sont individuels.
D'accord. L'inflation est un peu plus que 4,5.
Non, mais là, je vous dis, c'est 6,5 au total.
Oui. Oui, au total, mais oui, mais il y a une partie, c'est pas pour tout le monde, les 6,5, c'est ça que je veux dire.
La moyenne au total, c'est bien 6,5.
Est-ce que vous allez augmenter vos coûts?
Oui, on a annoncé, on ferait une augmentation des prix.
Oui.
Qui commencera à partir de la première semaine de décembre pour couvrir les coûts aujourd'hui qui sont les coûts de, d'énergie.
Oui.
Comme vous le savez, on a aujourd'hui des coûts d'énergie qui augmentent. Nous sommes paradoxalement ce qu'on appelle hedgé, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un mécanisme qui fait que nous avons 90% de nos coûts d'énergie qui sont sur des tarifs déjà négociés pour l'ensemble de l'année 2023, mais il y a encore 10% qui est sur le marché spot. Et donc, pour couvrir l'ensemble de ces coûts, les coûts d'énergie aujourd'hui explosent partout dans le monde. Et donc, il faut être capable de les couvrir pour maintenir un taux de rentabilité autour de 39%, qui est notre taux de rentabilité actuel, et pour pouvoir continuer à investir.
Oui. Le problème, souvent, c'est la question de la sobriété. On en parle beaucoup, sobriété énergétique. C'est un problème pour la technologie en général, et évidemment pour OVH Cloud. Vous avez pris des engagements assez forts, qui est d'être 100% énergie bas carbone d'ici 2025. Comment est-ce que vous allez faire?
Alors,
comment est-ce que c'est possible?
C'est possible parce que déjà, on est à 78%.
Oui, donc...
Donc déjà, c'est un point de départ qui est fort. Deuxièmement, sur la sobriété, depuis 2002, nous avons investi massivement dans des mécanismes aujourd'hui d'innovation. La principale, c'est que nous refroidissons nos serveurs avec de l'eau. Nous n'avons pas d'air conditionné dans nos data centers, qui fait que nous utilisons de 30 à 50% de moins d'énergie que nos comparables. Juste de manière aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'électricité, c'est l'eau. On utilise 5 à 10 fois moins d'eau aujourd'hui que nos comparables, parce que l'air conditionné, ça utilise beaucoup d'eau. Et pour terminer, parce que nous construisons nos data centers, et parce que nous construisons nos serveurs dans nos usines, nous sommes en circuit court, ce qui fait que l'empreinte carbone d'OVH Cloud aujourd'hui est beaucoup plus faible que la totalité de nos comparables.
Ouais, d'accord. Donc, et c'est un investissement supplémentaire ou pas?
Alors c'est plutôt en ce moment le fruit d'un investissement que nous avons fait dès 2002. Donc c'est pas quelque chose qui est récent. On a commencé à faire ce système-là.
J'ai bien compris, mais vous avez commencé. Mais le fait de la montée en puissance pour arriver à 100% bas carbone, j'imagine que ça nécessite d'autres investissements.
On va faire les investissements, mais en même temps, ça nous permet de réduire notre consommation énergétique. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure efficacité en termes de tous les composants qu'il y a aujourd'hui. Et donc, on est totalement convaincu que ça a à la fois un effet important sur le fait que nous soyons sur une proposition qui est plus durable, mais en même temps, économiquement, ça fait sens. Ce qui est la preuve aujourd'hui que OVH Cloud, qui consomme 30% d'énergie de moins, parce que nous avons été visionnaires en 2002 sur ces questions de frugalité, eh bien aujourd'hui, ça a un double des bénéfices. Nous sommes plus éco-responsables et en même temps, nous réduisons nos coûts.
Ça fait à peu près, du reste, vous étiez venu ici même, Michel Poulin, pour votre introduction en bourse. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette introduction en bourse?
Alors, ça nous a apporté clairement une visibilité, en particulier à l'international. Aujourd'hui, nous faisons 48% de notre chiffre d'affaires en France, mais 52% à l'international, 22% en dehors de l'Europe.
Les États-Unis,
et nous important. Sommes en très forte croissance aux États-Unis. On a presque 80% de croissance aux États-Unis, ce qui prouve qu'un acteur français, c'est le deuxième pays maintenant en taille pour OVH Cloud, les États-Unis. Nous sommes aussi présents en Asie, à Singapour, en Australie et dans différents pays. Et aujourd'hui, on a plus de 45% de croissance en Asie. Et donc, on voit bien aujourd'hui que cette ouverture vers le marché public en bourse nous a permis d'avoir une crédibilité et une visibilité.
Oui, parce que ce n'est pas tellement l'évolution de votre cours de bourse, on peut dire.
Non, mais alors, en ce moment, les évolutions de cours de bourse, bon, aujourd'hui, c'était plutôt très très bon. Ouais. Donc, le marché a salué de manière à apprécier nos annonces. Ça nous a aussi permis de financer notre croissance. Et aujourd'hui, nous sommes financés pour les 4 prochaines années, sur l'ensemble de notre plan de croissance, d'accélération de croissance.
Deux questions, Michel Pollin. D'abord, qu'est-ce que, aux États-Unis, vous disiez une croissance de 80%, ouais. Ça devient votre deuxième marché. Qu'est-ce que vous apportez aux entreprises américaines de plus que les géants, les GAFAM qu'ils ont déjà, je dirais, chez eux?
Alors, la preuve qu'on peut réussir,
oui,
même en étant
justement, c'est pour ça que je pose la question.
La première raison, clairement, c'est que nous avons un prix compétitivité aujourd'hui qui est meilleur et qui est reconnu par l'ensemble des benchmarks sur une grande partie de nos services. La deuxième, c'est que nous avons un positionnement qui est un peu le cloud souverain, mais cette fois-ci, vu des Américains, nous ne touchons pas aux données de nos clients. Mm-hmm. Nous ne sommes pas en conflit d'intérêts avec nos clients, et nous sommes totalement dans la protection des données de nos clients. Et ça, c'est quelque chose que certains acteurs, dans le gaming, dans le streaming, dans le domaine d'autres activités, dans le domaine de la finance, apprécient. Parce que souvent, certains de ces acteurs-là sont aussi leurs compétiteurs.
Il y a une question quand même, c'est on peut se demander pourquoi en fait vous ne pourriez pas vous focaliser sur certains secteurs. Parce que là, vous faites du cloud pour tout le monde. Je sais pas, vous pourriez être dans la santé, dans le gaming, dans les jeux, vous voyez.
Les solutions que nous proposons sont des solutions génériques et dans lesquelles nous passons en revanche des certifications par secteur. Donc aujourd'hui, nous avons la certification, par exemple, de la santé en France qui s'appelle HDS. Ouais. Nous avons la certification la plus élevée en termes de sécurité qui s'appelle Secnum Cloud, qui est aujourd'hui la certification qui permet d'adresser des marchés comme la défense. Donc aujourd'hui, nos outils nous permettent d'offrir des outils génériques, mais avec des spécialisations si de nécessaire.
Qu'est-ce que ça vous apporterait éventuellement de vous rapprocher d'Atos ou d'une partie d'Atos?
Je ne ferai pas trop de commentaires sur ce sujet-là.
Pourquoi? Parce que vous
aujourd'hui,
travaillez sur le
d'actualité.
Sujet.
Ce que je peux vous dire, en
attendez, c'est que... vous dites que c'est pas d'actualité. Bah si, c'est d'actualité.
En tout cas, oui.
Donc c'est pas d'actualité chez OVH, c'est des
voilà, voilà.
À OVH Cloud, non? Vous ne travaillez pas.
En tout cas, c'est pas d'actualité pour en parler aujourd'hui.
Ah non, c'est un peu différent là. Comme il y a une nuance importante.
Donc je ferai pas trop de commentaires sur le sujet aujourd'hui.
Donc ça veut dire que vous regardez le dossier, quoi.
Je ne vous répondrai pas sur ce sujet-là.
Ouais, d'accord. Enfin, si vous répondez pas, ça veut dire que c'est quand même un peu comme Orange hier. Je posais la question. J'ai envie de dire toute la place regarde le dossier Atos. Il y a des belles choses à prendre dedans. D'accord, ok. Non, mais c'est la pire des réponses, hein, celle que vous nous faites, Michel Pollin. Peut-être pour conclure, juste.
La pire. Pourquoi la pire?
Non, mais la pire des réponses, ça veut dire que oui, c'est une forme de manière de dire oui.
Non, j'ai pas dit ça.
Je poursuis. Pour vous, 2023, quand est-ce que vous allez affranchir le milliard de chiffre d'affaires?
Dans les deux prochaines années, très certainement. Puisque,
en 2023 ou en 2024?
Si vous regardez les guidance qu'on a donné, c'est en 2024.
Ouais. Et quand est-ce que le retour aurait un résultat net positif?
Écoutez, nous, notre
là, vous
plan
êtes en perte,
qui était
là, on
fait...
On a parlé du côté positif, mais il reste quand même une petite part d'une trentaine d'euros, enfin 39 millions, je crois.
Oui, le choix qui a été fait, c'est de continuer à investir pour croître.
Oui.
Nous pensons qu'il y a aujourd'hui une croissance possible pour OVH Cloud, une croissance qui effectivement consomme un peu de cash, mais comme nous sommes ni financés, nous sommes tout à fait confiants qu'aujourd'hui, et d'ailleurs le marché l'a prouvé, nous sommes confiants aujourd'hui pour pouvoir continuer à le faire. Et bien entendu, nous pensons que quand nous aurons atteint une taille suffisante, bien entendu, il y aura des résultats qui seront différents. Mais aujourd'hui, sur le plan qui a été proposé au niveau d'investissement sur les 5 prochaines années, eh bien, nous continuerons à investir.
Voilà, mot de la fin. Merci beaucoup Michel Pollin, directeur Merci. Général de VH Cloud. On l'a compris avec de belles perspectives. Et désolé pour cette poussière qui a un tout petit peu entravé le début de cette interview. Il m'a coupé la voix. Voilà, on va Merci. Mettre les poussières dans le cloud. Ça serait une bonne idée. Comme ça, il n'y en aurait plus sur Terre. C'est la fin donc de cette grande interview. On se retrouve demain avec Clément Beaune. On parlera de la réaction au discours du président de la République ce soir. Et puis, on parlera bien sûr de pénurie de carburant. Et tout de suite, Tech & Co. avec François Sorel et Fred Simotel.
Good evening business. La grande interview.